si on parvient à retrouver un peu d'activité économique, mettons à 70-80% en septembre, il y a peut-être un sens à se dire que remettre 2 semaines le pays en vacances, parce que les enfants seront 2 semaines en vacances, pourrait être perturbateur partout où on aura retrouvé un minimum de vitalité économique, à un moment qui n'est sans doute pas la période la plus touristique de l'année en France, d'une part. D'autre part, il y a un très bon argument, c'est que vous avez quantité d'enfants qui ont perdu infiniment de semaines de vacances. Il y a des enfants qui ne vont plus à l'école depuis le 21 février, ceux de la zone A. Et se dire qu'on met des dispositifs en place pour qu'on maximise le temps scolaire quand on pourra enfin les renvoyer pleinement à l'école, pour moi, fait sens. Alors, on va peut-être me dire qu'il aurait mieux fallu parler uniquement de cette capacité à remettre les enfants à l'école. Moi, j'assume ce que je dis. Je pense que les deux arguments sont audibles. Personnellement, je suis plus attaché au second, étant très attaché à l'éducation. Mais pour moi, les deux arguments convergent. Sur le jour férié, c'est simple. En gros, vous savez qu'un jour férié en France, un jour de travail de façon générale, ça vaut 0,5 point de PIB sur une année en termes de jours ouvrables.
Produit intérieur brut.
Comment ? De produit intérieur brut. Pardon, excusez-moi, vous avez raison de me rappeler à l'ordre. Je pense que compte tenu de la catastrophe économique qui est devant nous, sans doute 10 à 11 points de PIB perdus sur 2020 et un rebond qui se présente pas très très bien sur 2021, si on peut aller chercher 0,5, 1 point par ce type de méthode, pourquoi s'en priver, même si ça doit être temporaire ?
Votre réaction face à ce pragmatisme, Laurent Berger ?
Non, mais moi, je pense que ce n'est pas du pragmatisme. Je pense que c'est une approche idéologique. Je le dis franchement, pour une raison simple. C'est ce qui arrive devant nous en termes de crise économique, et effectivement, il faut s'en soucier, c'est d'abord de profondes et de nombreuses suppressions d'emplois. Et que demain, l'enjeu qui sera devant nous, ce sera de travailler tous. Ce sera que ces centaines de milliers de nouveaux demandeurs d'emploi, malheureusement, parce que je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais c'est ce qui arrive, puissent retrouver du travail. Et donc, je ne crois pas que le monde du travail demain doit se découper entre ceux qui n'en ont pas et qui seront demain plus nombreux qu'ils ne sont aujourd'hui et ceux qui devront travailler plus longtemps au nom de la productivité.
Est-ce que vous pouvez admettre, Laurent Berger, pardonnez-moi, que justement, parce qu'il faudra retrouver du travail à des centaines de milliers de personnes, on peut aller vers plus de flexibilité, on peut faire passer l'intérêt immédiat des entreprises avant quelques mesures de confort pour les salariés, parce qu'il y aura urgence? Je me place de votre point de vue.
D'abord, le repos journalier, les congés, c'est pas du confort. C'est la vie normale et c'est ce qu'on souhaite dans notre modèle social. Mais ce qui est sûr, c'est que de la flexibilité, il en existe dans les entreprises. Par le biais d'accords, il sera possible dans certaines entreprises de faire en sorte, parce qu'il y aura une pique de commandes, parce qu'il y aura un besoin particulier, il y ait nécessité de revoir les modalités, la modulation du temps de travail, etc. Mais rien de nouveau sous le soleil. Et ça existe déjà. Et donc, il y a déjà cette possibilité-là. Et la CFDT ne s'y est jamais refusée lorsqu'il y avait un deal, excusez-moi ce terme un peu barbare, mais est-ce qu'il y avait un accord qui répondait à un besoin économique, ce n'est pas un gros mot pour nous, mais en même temps à une acceptation sociale et à des avantages pour les travailleurs également.
Il ne va pas y avoir des besoins économiques dans le sens où des entreprises françaises vont être soumises à la concurrence d'entreprises étrangères qui ont redémarré plus tôt que ces entreprises françaises.
Oui, bien sûr, elles ne sont d'ailleurs pas arrêtées de la même manière, mais cette nécessité de faire repartir l'économie, personne ne la remet en cause, en tout cas pas moi. Mais demain, ça doit se faire en faisant que ceux qui ont un emploi travaillent plus, au détriment, d'une certaine manière, de ceux qui n'ont pas d'emploi et donc qu'il va falloir accompagner. Vous savez quand même que, puisque ça intéresse Laurent Bigorne, l'éducation, vont sortir des centaines de milliers de jeunes, je ne sais plus exactement combien, mais du système scolaire en fin d'année, en fin d'études. Cela, pour nombre d'entre eux, ils pensaient qu'ils allaient avoir un emploi assez facilement, d'une certaine manière, vu la situation économique qui était la nôtre jusqu'en février. Ça ne va pas être le cas. On fait quoi ? On considère que tant pis et on fait travailler plus longtemps ceux qui sont dans les entreprises, qui vont repartir, qui auront un besoin de productivité, ou on invente des dispositifs intelligents.
Quel dispositif
on pourrait inventer que ces jeunes puissent intégrer l'entreprise, considérer qu'ils puissent poursuivre sur un statut alternant une année supplémentaire pour ceux qui vont finir leur alternance là. On peut considérer qu'il y ait des facilités pour les entreprises qui font l'effort de les embaucher. Enfin, voilà. Mais il faut innover. Et moi, ce que je reproche, ce n'est pas qu'on parle du temps de travail, c'est un bon sujet.
D'accord.
Ce que je reproche, c'est que l'approche qui est privilégiée par certains aujourd'hui, c'est uniquement celle-ci.
Moi, je ne suis pas là pour être punitif. Je ne suis pas dans la revanche. Aucun problème à digérer ce qui s'est fait en 2000 sur les 35 heures. Grand Berger a raison de dire qu'il y a quantité d'éléments de flexibilité qui ont été posés, et d'ailleurs par des majorités différentes au fil du temps. On propose deux ou trois éléments techniques supplémentaires compte tenu du contexte, avec toujours le même principe. Et là, je me tourne vers la CFDT, la négociation, c'est-à-dire l'accord, effectivement, des organisations syndicales, partout où il y en a, la compensation. Et le patronat n'a pas toujours été responsable de ce point de vue-là. Et je pense qu'il faut totalement l'être. Et je le dis d'ailleurs pour le patronat, je le dis pour l'État. Si on veut travailler plus dans la fonction publique, à certains endroits où on en aura besoin, commençons par payer les heures sup qu'on doit aux uns et aux autres. On peut prendre l'exemple de l'hôpital, mais on pourrait prendre évidemment l'exemple des forces de police et de gendarmerie. Donc il me semble important que de dire que partout où c'est nécessaire, partout où il y a un accord, partout où c'est nécessaire, partout où il y a un accord, partout où on est prêt à compenser, à payer, y compris, vous avez raison, à raison de ces gains de productivité à refaire, parce que les gestes barrières, le matériel, ça ralentit. C'est normal. C'est normal. Et je n'ai rien contre les gestes barrières. Ils sont absolument nécessaires. Et là où ça n'est pas nécessaire, laissons simplement les uns et les autres agir. Là où ça n'est pas nécessaire, il ne faut surtout pas de mesures générales. Il n'y en a pas besoin. Laurent Berger a raison.
Tant d'attendre des semaines et des mois qui viennent, Laurent Berger.
Je pense qu'il ne faut pas, au prétexte de l'urgence, donner à penser aux Français qu'on va faire n'importe quoi. Je pense en revanche que l'urgence, c'est d'être ingénieux et inventif. Laurent Berger a donné un très bon exemple sur la question des alternants. Elle est fondamentale. On ne va pas avoir dépensé beaucoup d'argent dans l'apprentissage, fait une réforme pour aboutir à des résultats meilleurs, et au moment où tout ça arrive, enfin à maturité, dire « bon, bah, cette année, on ne sait pas faire ». Donc, pour moi, l'urgence, elle est celle de l'ingéniosité, elle est aussi celle du dialogue social. Et je le dis en toute sincérité.
Le dialogue social,
c'est pour ça qu'on a
voulu... prend du temps, le dialogue social.
Ah non, nécessairement, c'est pas vrai.
Mais il faut arrêter avec ça. C'est, tout seul, on va plus vite, mais on va moins loin. Le dialogue social, c'est faire appel à l'intelligence collective. Vous savez ce qu'on va traverser là? On ne l'a jamais traversé. Aucune de nos générations. On ne l'a jamais traversé. Et donc, soit on s'en sort en pensant que quelques-uns, au bout d'une table, se mettent d'accord pour écrire quelques préconisations de ce qu'il faudrait faire que tout le monde fasse, dans les entreprises, mais dans la société, parce qu'on ne va pas avoir qu'une crise économique, quand même. Après, on a une crise sociale, on a une crise sociétale. Il ne faut pas l'oublier. Après, et donc, le dialogue social, c'est faire marcher la machine à intelligence collective.
Une question, Laurent
Berger. Et on va avoir besoin de ça. On va avoir besoin d'innovation sociale. Et il n'y a rien de mieux en termes d'innovation sociale sur le travail, que d'écouter ce qu'ont à dire les travailleurs.
Juste une question, Laurent Berger. Après la Deuxième Guerre mondiale, où la France est en ruine, il y a quelque chose qui est lancé par Thorez, qui est repris par les syndicats, c'est la bataille pour la production. Pourquoi est-ce qu'il semblait...
qu'il faut dire ça à la
Et pourquoi est-ce que ça semblait simple à l'époque, la bataille pour la production, devient si compliquée aujourd'hui?
Mais ce n'est pas à moi qu'il faut le dire.
Je le dis à tout le monde.
Il faut le dire à Philippe Martinez.
La CFDT, elle dit très clairement aujourd'hui que la reprise d'activité et d'actualité, de la même manière qu'on peut le faire en respectant la santé et la sécurité des salariés. Mais une fois encore, nous ne sommes pas dans la même situation. Nous étions dans une guerre. Je ne crois pas que nous soyons dans une guerre. Ça n'a rien à voir. Il n'y aura pas de gagnant à la fin. En 45, il y en avait. Et il y avait un pays à reconstruire. Aujourd'hui, il est à reconstruire, pas matériellement d'une certaine manière, pas physiquement, il est à reconstruire socialement, sociétalement. C'est ça qui est devant nous. Moi, ce que je dis des propositions qui sont faites, c'est lorsqu'elles sont reçues, même si elles sont plus nuancées quand on lit, etc., lorsqu'elles sont reçues et que ça donne le sentiment qu'il y aura de la sueur et des larmes, eh bien, je dis attention. Attention, notre pays aujourd'hui est miné par ses fractures, miné par ses divisions. Et donc, il vaut mieux mettre sur la table tout l'éventail de ce qui sera possible pour faire repartir l'économie, faire par exemple, il y aura des questions de répartition des richesses, il y aura des questions de travailler mieux, de qualité du travail. Eh bien, toutes ces questions-là, vaut mieux les soumettre au dialogue social que d'avoir un seul prisme qui est de travailler plus.
Laurent Bigorgne, on y est? Les 32 heures, le partage du temps de travail, ça fait partie de l'inventivité qu'on pourrait envisager?
Attention, il ne faut pas que le partage du temps de travail, ça devienne le partage malthusien de la richesse et donc l'appauvrissement. C'est-à-dire que la vision de la CGT 32 heures pour tous, pour moi, c'est un mensonge.
Moi, je crois que demain, la place du travail va être réinterrogée, y compris parce qu'on est en train de vivre un profond bouleversement aujourd'hui.
À cause du télétravail
Avec le télétravail. Et donc, la question de l'organisation du travail va être posée sur toute la durée de la carrière. Nous comptons remettre sur la table notre proposition que l'on fait depuis maintenant quelques mois, qui est cette histoire de banque du temps, de compte épargne temps universel, qui permettrait de consacrer du temps à du projet personnel, à de la formation, etc. Je crois que la logique hebdomadaire a fait son temps.
Présidentielle sur le compte emploi formation et l'Institut Montaigne et la monétisation pour permettre aussi de sortir de la redistribution à l'envers de la formation professionnelle. Il va y avoir effectivement beaucoup à dire et beaucoup à faire.
Sur la formation professionnelle, dernier mot.
Écoutez, l'enjeu, il est énorme demain. Il y aura d'abord former plutôt que licencier, plutôt que de renvoyer au chômage. Et puis, il y aura sans doute nécessairement des transferts de compétences, y compris si on intègre des relocalisations d'activités. Demain, la formation, c'est un enjeu majeur. C'est presque l'enjeu numéro un en termes d'emploi.